Sylmar Autoville, votre détaillant de pneus pour véhicules classiques et antiques, vous souhaite un bon balado. Consultez leur site web au www.sylmar.ca. Roule ton passé au présent. Moi, je pense qu'on a une technologie, pourquoi pas s'en servir. Je pense qu'on est rendu là. Et ça ne change pas la façon dont le match se joue. Outre peut-être, à long terme, peut-être le fait que certains receveurs dont la qualité première est de cadrer bien les tirs, on va peut-être voir leur valeur diminuer.
Si parfois le receveur fait un très bon travail de cadrer les tirs, on n'ira peut-être pas là, parce qu'on ne veut pas les perdre, là, ces deux possibilités-là. La seule chose, Alain, c'est que je veux dire là-dessus, le fameux carré qu'on voit à la télévision, ça ne sera pas ça la zone de prise.
Au jeu! Deuxième prise! Compte complet!
Le balado compte complet est présenté par Don Match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Huzeau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet. Les camps d'entraînement sont en cours. Alain Huzeau en compagnie de Marc Griffin. Donc, beaucoup de matériel. C'est temps de vous proposer notre ordre du jour qui est présenté par Lester's Smoked Meat. C'est le choix numéro un des amateurs de baseball et des casse-croûtes depuis 1931. Vous pouvez évidemment utiliser leurs produits pour toutes les occasions en famille, dans un party, entre amis, devant un match. Bref, il y a plusieurs façons de pouvoir consommer les produits Lester's. C'est une tradition depuis 1931. Donc, on va commencer évidemment avec les nouvelles du camp d'entraînement. On va s'attarder dans le premier bloc avec les nouvelles dans l'Est de la Ligue américaine, principalement des Blue Jays de Toronto. Par la suite, quelques signatures de contrat, le renvoi avant le camp d'entraînement de Nick Castellanos. Certains se sont grattés la tête un peu avec cette décision des Phillies de Philadelphie qui coûte quand même quelques millions de dollars. Et par la suite, on va parler un petit peu de la zone de prise électronique qui s'en vient pour la saison 2026 et un peu de baseball international, un classique mondial qui s'en vient. Et on a parlé des Olympiques, on est en plein dedans en hiver. Est-ce qu'on a espoir que les meilleurs vont pouvoir s'affronter aux Jeux de Los Angeles en 2028? On va en parler avec Marc, qui est très, très bien placé pour nous parler, évidemment, de l'atmosphère olympique, lui qui était à Séoul en 1988. Marc, les Blue Jays de Toronto, je sais que tu aimais beaucoup Joel Oporfido. Là maintenant, il retourne à Houston, d'où on l'avait acquis pour Kikuchi. On a obtenu quelqu'un qui a plus de puissance, ça c'est clair. Quelqu'un probablement au profil plus athlétique aussi. Jesús Sánchez, quand il était avec Miami, il y en a plusieurs qui l'aimaient. Je pense qu'on faisait partie du groupe. L'Oporfido, Marc, évidemment, la puissance, ce n'est pas son fort. Mon petit doigt me dit que tu es un peu dubitatif quant à cette transaction-là des Blue Jays de Toronto.
Oui, écoute, évidemment, c'est une transaction qui est survenue en raison de la blessure d'Anthony Santander. Santander qui devait, évidemment, avec la perte de Bo Bichette, on se disait, Santander qui n'a rien fait l'année dernière, pourrait rebondir. Tu sais, c'est quand même un gars qui pourrait frapper une trentaine de coups de circuit, certes. Donc, on aurait pu remplacer un peu la puissance de Bichette par, Santander. Et là, Santander, évidemment, va être absent probablement pour le reste de la saison, en tout cas une bonne partie. Alors, on a réagi. On a réagi de ce côté-là. Écoute, je sais que Sanchez, Alain, toi, c'est un gars qui a quand même tous les atouts. Tu sais, je veux dire, physiquement, court bien, puissance comme frappeur gaucher. Mais c'est pas un joueur qui va jouer contre les lanceurs gauchers. C'est un joueur qui va jouer que contre les lanceurs droitiers d'adversaire. Dans le cas d'Oporfido, c'est sûr que moi, je trouve que son plafond est un petit peu plus élevé. Demain, il est un peu plus jeune, manque d'expérience. Il n'a pas autant d'expérience que Sanchez. Mais tu sais, je voyais, puis là, lancez-moi pas les tomates, je voyais un petit peu un Kyle Tucker peut-être en devenir. Je vous dis pas que c'est ça, il allait être aussi bon que ça, mais je trouvais que dans son élan, dans son approche, il y avait quelque chose d'intéressant. Je trouvais qu'il y avait, c'était un bon mariage avec les Blue Jays. Je sais pas combien de temps de jeu qu'il aurait eu cette année, mais j'aimais le potentiel qu'il avait. Je comprends, ceci étant dit, la transaction des Blue Jays. D'aller chercher un gars qui va chercher un peu de puissance là, du côté gauche, face au droitier. Puis ça reste un frappeur mystérieux. C'est-à-dire que, tu sais, on vient de le dire, il y a un potentiel énorme qui n'a comme pas encore été, tu sais, je dirais pas mûri, parce que c'est un petit bout de temps qu'il est là, parce que, tu sais, je veux dire, avec les Marlins, Alain, il y a eu toutes les chances possibles.
Ah oui.
Mais est-ce qu'un changement d'air, je sais qu'il était libre, bon, à Houston, pas très longtemps, là, mais tu sais, parce que, tu sais, Alain, on se parle souvent lorsqu'on fait nos matchs à RDS, puis je dis, souvent, tu sais, des fois, changement d'air, changement de philosophie, nouvel entraîneur, nouvel instructeur des frappeurs, il y a quelques mains, oups, ça clique. Que ce soit un lanceur ou un frappeur. Ce qu'on espère que ça peut être dans le cas de Sanchez, c'est quand même un bon pari. Je trouve juste que l'Operfido, c'est un gros prix à payer.
Oui, écoute, Sanchez est dans le cœur de sa carrière. C'est pas compliqué, là. Il est âgé de 28 ans actuellement, Sanchez. Ce que je regarde, ça m'a étonné, Marc, j'ai regardé son rendement à domicile et à l'étranger. Bien mis, c'est pas un stade qui favorise les frappeurs, mais pourtant, son rendement est nettement supérieur à domicile qu'à l'étranger. Ça m'a un peu surpris de quand j'ai vu ça. À Toronto, est-ce qu'il va se retrouver à l'aise? Tu as raison de dire qu'il y en a plusieurs qui le voyaient gros. Il est dans ses meilleures années. Il serait supposé de produire. Moi, je pense que s'il s'en va à Toronto, les attentes à son égard, je te dis, c'est compte tenu de son potentiel et du prix qu'on a payé, effectivement. Avant la blessure de Santander, moi, je pense qu'il s'en allait dans une situation où il allait alterner avec David Schneider au champ gauche. Ouais. Je pense un peu de la façon dont on s'en allait l'utiliser. Donc, effectivement, là, c'est peut-être le dernier pari qu'une équipe prend avec Jesus Sanchez. Là, regarde, tu as besoin de frapper là, dans une équipe qui a besoin de toi. Tu as de la puissance, tu as les atouts. Maintenant, il va falloir nous le montrer parce que, regarde, on se fie sur toi. Là. Donc, mais je regarde, il y a quelque chose à aller chercher, je pense, de ce côté-là. Puis, je suis d'accord avec toi, là. En tout cas, du côté de Sanchez. Mais je veux te parler un peu de la situation de Santander. Ce qui me déçoit un peu, Marc, pourquoi est-ce qu'on n'a pas, on ne s'est pas préoccupé de ce dossier-là pendant l'entre-saison? Je sais que ça arrive souvent qu'il y a des joueurs qui traînent des blessures pendant l'entre-saison, veulent éviter l'opération. C'est l'entre-saison, on veut en profiter. Dans certains cas, on va se dire, on cache des blessures dans l'entre-saison, puis là, on arrive au camp d'entraînement, puis oups! Tu sais, l'entre-saison, c'est le moment où tu t'amuses avec les amis, t'as moins d'obligations qu'en saison régulière. Je ne dis pas que c'est le cas de Santander, je te dis juste que peut-être que les Blue Jays auraient pu faire davantage pour s'enquérir de la situation de Santander dans l'entre-saison.
Oui, c'est un peu mystérieux, ce dossier-là, parce que là, on nous a dit qu'il a aggravé sa blessure récemment, là, donc. Mais aggravé, ça veut-tu dire qu'il l'avait déjà?
Ben,
hein, bon. C'est alors, tu sais, un peu, effectivement, c'est un peu mystérieux, un peu bizarre, un peu décevant. Compte tenu de l'importance qu'il a, selon moi, qu'il aurait eu cette année, on parle beaucoup, tu sais, de la perte de Bo Bichette. Il fallait trouver une solution pour le remplacer. On n'allait pas le remplacer par un joueur, surtout lorsque Tucker a décidé d'aller jouer avec les Dodgers. Ouais. Il devenait un joueur important dans le milieu de la formation. Là. Dans le cœur, il frappait 5-6, donc un producteur de points. Écoute, il y a des informations qui nous échappent assurément, mais lorsque tu dis qu'il a aggravé sa blessure, donc est-ce qu'on a pris un pari d'attendre? Je ne sais pas. Mais personne paraissait très bien dans ce dossier-là. Et de là, la transaction carrément là, de Sanchez. Ouais. Est-ce que tout ça va être suffisant, Alain, pour nous donner assez de punch à l'attaque là, du côté des Blue Jays de Toronto cette année? Okamoto devient donc un rouage très important en attaque.
Ben oui. Ouais.
Peut-être pas la pression que je pensais qu'on allait lui donner, mais force est d'admettre que maintenant, ce sera le cas. Mais vite de même, tu sais, je dis, bon, il reste encore beaucoup de temps avant le début de la saison. On a le temps de se faire une bonne idée sur les Blue Jays, par exemple, Alain. Mais tu sais, est-ce qu'il faut souhaiter une aussi bonne saison de George Springer qui avance en âge? Est-ce que Lucas... Tu sais, puis j'ai des questions, là, toutes les réponses peuvent être oui, là.
Ouais.
Mais est-ce que Lucas peut être aussi bon que l'année passée? On le souhaite certainement. Barger toute l'année. David Schneider qui est là. Dernière année avant son autonomie pour Dalton Varsho, est-ce que ça va produire? Il y a plein de questions. Je veux dire, il y a plein de questions.
Ouais.
Mais je pense quand même qu'il y a de quoi être optimiste là, du côté des Blue Jays cette année. Mm-hmm. Mais ça reste que c'est une division Est qui va être assez... Et je regarde ce que Baltimore a fait, puis ouais. Bon, il y a plein ouais. de choses là, qu'il va falloir surveiller.
Bon, on va amalgamer Baltimore et Toronto. Chris Bassett s'en va avec les Orioles. Les Orioles là, qui essaient de, en fait, d'embaucher des bras qui sont capables de lancer des manches. C'est un peu ça là, qu'on est allé chercher dans l'entre-saison. Et c'est une intrigue. Tu parles de points d'interrogation. Ben, chez les Orioles de Baltimore, il y en a beaucoup. L'an passé, on pensait être capable de s'en sortir, même si on n'était pas sûr. On a moins Grayson Rodriguez cette année. Est-ce que Trevor Rogers est celui qui va être capable de d'avoir la même deuxième moitié de saison que l'année passée? Si oui, ben on l'a, notre numéro un. Mais rien n'est moins sûr là, avec les Orioles. Donc, il y a beaucoup de là-dessus de points d'interrogation. Et là, il faut l'éclosion de certains jeunes à Baltimore. Chris Bassett, c'est un complément. L'an passé, il a montré qu'il en restait encore dans le bras. S'agit de l'entourer comme il faut. Ça ne devrait pas être le numéro un. Moi, je pense qu'il y a certains jeunes, là, je pense à Kirsten, entre autres, là, il est rendu là au moment où, regarde, c'est temps de produire, là, c'est peut-être ta dernière chance, puis il y en a quelques autres aussi. Puis Rutschman, Marc, ça m'inquiète un peu, mais on sait qu'on a un jeune qu'on a l'année passée à qui on donnait un contrat à long terme. On s'en vient de ce côté. C'est ça. Baltimore devrait être compétitif.
Oui, moi, je pense que oui, Alain. T'sais, Pete Alonso, ouais. Ouais. Taylor Ward, on vient d'ajouter deux vétérans, deux gars ben oui, qui ouais. rappent. Autour des Westberg de ce ouais. monde. Puis, et même ça. D'enlever un peu de pression à Rutschman. Mm-hmm. Puis Rutschman est arrivé là, dire, okay, on l'a tout de suite mis là, dans le cœur de, ouais. de l'équipe, c'est-à-dire frapper deuxième, troisième. On sait qu'un receveur, Alain, c'est dur d'être receveur. Puis là, ouais. d'arriver, t'es jeune, puis tous les espoirs sont fondés sur toi. Rappelle-toi, là, c'était en raison de son rappel il y a une couple d'années que les Orioles s'étaient mis mm-hmm. à gagner. Moi, j'y enlèverais cette pression-là en attaque. Va-t'en un petit peu plus bas dans le rôle offensif. Sois le meilleur receveur possible, puis j'ai l'impression que ça pourrait aider. Moi, j'aime l'hiver des Orioles. Tu sais, dans le sens que mm-hmm. on sait que c'est pas une organisation qui va signer des énormes contrats. Ouais. Mais Bassett vient quand même, tu sais, compléter quelque chose de le fun avec, bon, t'as parlé de mm-hmm. Rogers, Bradish qui devrait être là aussi. D'aller ouais. chercher Shane Baz.
Oui, c'est un bon bras.
Et alors, moi, je pense qu'on a fait des gestes, on a posé des gestes très intéressants à ce niveau-là. Faut pas oublier que Tyler O'Neill est toujours là, Ryan Mountcastle, peut-être qu'il va avoir ouais. des rôles un peu différents, mais ça reste des frappeurs quand même mm. solides. Puis, tu sais, Colton Cowser qui est de retour après une deuxième année ouais. un petit peu plus difficile. Donc, globalement, c'est pas une équipe, Alain, qui s'en va dans la direction des Rays. Les Rays, comment...
Non.
Alors, Baltimore va être dans le coup. Est-ce qu'on mm-hmm. va gagner 90 matchs? Peut-être pas, mais on va être dans le coup une bonne partie ouais. de la saison. Puis Bassett vient... Moi, j'aime Bassett. Je pense que parfois, il faut juste penser l'apport d'un Bassett ou d'un Scherzer l'année dernière avec les Blue Jays. Et là, je parle simplement ouais. en termes de leadership, de parler sur le banc avec les jeunes, puis de communiquer. Ça, c'est des éléments qui sont très importants qu'on a peut-être un peu perdu mm-hmm. chez les Blue Jays. Et ouais. qu'on va peut-être gagner là, ce côté des Orioles de Baltimore.
Oui, mais c'est sûr qu'on s'est donné de la profondeur. C'est à peu près l'équivalent de l'embauche de Charlie Martin l'année passée. Si on veut une comparaison, là, c'est à peu près le rôle que cette année aura Bassett avec les Orioles. Rapidement, Marc, peut-être deux joueurs qui ont changé de camp ou qui ont changé de camp. Dans un cas, non. Paul Goldschmidt avec les Yankees de New York. J'ai l'impression qu'on cherchait... une option peut-être plus dynamique au premier but, on n'en a pas trouvé, mais qui frappait de la droite, ça c'était impératif du côté des Yankees de New York. On a ajouté quelques joueurs, des invitations aussi, Marc, Rosario est de retour, Paul DeJong a signé un contrat des ligues mineures là-bas. On cherche un complément du côté droit, ça c'est clair. Il y a pas mal de joueurs de la gauche. Stanton, évidemment, s'il jouait toute la saison, ce serait moins de préoccupation, mais on le sait qu'il va manquer plusieurs matchs. On le prend pour acquis. C'est pas compliqué.
Oui, ben, en fait, c'est un peu ça que les Yankees ont fait. Là, c'est qu'on a ajouté un petit peu ouais. de profondeur ouais. en termes de réserviste, je vous dirais. Là, mais c'est tout. Hein, on n'a pas fait grand-chose. En fait, il y aura le retour mm-hmm. de Garrett Cole, ce qui n'est pas rien hein, du côté des ouais. Yankees de New York. Le retour se fera quand? Ça, c'est la question. Je ne le crois pas ouais. au début de la saison. Mais je ne pense pas que ça va aller très tard. Là. Ça va être peut-être... Moi, je pense, ouais. Tu sais, le mois de mai me semble plus juste dans ce cas-ci. Mais on se fait avec ce qu'on a. Puis on espère que les Schlettler de ce monde vont poursuivre sur leur excité, leur début fantastique dans le baseball majeur. Mais on n'a pas fait geste. On a remis sous contrat Bellinger, ce qu'on devait faire, mais Bellinger était là l'année dernière. Donc, on a pas mal la même équipe qui revient. Caballero qui va être là toute l'année. Là, c'est pas qui va jouer à l'arrêt-court toute la saison, mais en tout cas, on verra ce que ça va donner. Mais sinon, c'est ça. On a la même équipe. Exact. Qui est pas mauvaise. Yeah,
non, pas du tout. Chez les Red Sox de Boston, Marc, on a perdu Bregman et là, on se rabat sur Caleb Durbin. Donc, on a acquis des Brewers de Milwaukee. C'est un plan B, plan C, plan D, je ne sais pas trop. Chez les Red Sox de Boston, on aurait pu aller à l'interne, mais on a décidé d'aller vers un joueur qui a une seule saison sous la cravate, une bonne saison. Mais quand même, Marc, écoute, moi j'ai comme l'impression que c'est en attendant qu'on ait mieux au troisième but.
Et tu l'as dit, il y a quand même une bonne saison avec Milwaukee. Moi, je trouve, c'est sûr que quand la transaction a été faite, j'ai fait comme OK. Mais je trouve que c'est un beau mariage avec les Red Sox. Moi, il me fait penser un peu à Brock Holt. Dans le sens que c'est pas un gars qui pourrait jouer au troisième, qui est avec un gros gabarit, puis qui lance des plombs au premier but. Là. C'est pas ça du tout. C'est un gars qui va faire son travail, qui va mettre la balle en jeu, qui va être un peu fatigant. T'as besoin des gars sur les buts pour Roman Anthony et compagnie. Tu comprends? Donc, c'est ce genre de joueur-là. C'est pas spectaculaire en termes de puissance, mais très combatif. Alex Cora va l'aimer. On va dire ça de même, là, il va l'aimer. Donc, c'est ça. C'est pas le gros troisième. C'est pas le Matt Chapman là, qui va prendre la place au troisième. Pas du tout ça, mais on verra où est-ce qu'il va jouer dans tout ça. Mais bon, juste le fait qu'Anthony est là. J'ai hâte de voir la contribution de Wilson Contreras qu'on est allé chercher du côté des Red Sox. Donc, il y a quand même des choses intéressantes. Ça va se passer beaucoup, évidemment, au Monticule avec l'arrivée de Suarez combiné avec Crochet et Sonny Gray. C'est là que les Red Sox ont vraiment décidé de bouger à ce niveau-là. Mais ils se sont améliorés. Selon moi, ils se sont améliorés. Ouais. Et ça va donner, encore une fois, une division S qui va être fort agréable à surveiller.
Très compétitive et la boîte à surprise à Tampa Bay, on ne sait pas trop ce qui va arriver de ce côté-là. On s'est départi de plusieurs actifs, on en a acquis plusieurs. Souvent, ces points d'interrogation deviennent des points d'exclamation lorsqu'on se retrouve à Tampa. Ça va être intéressant de ce côté-là de voir effectivement quel miracle Kevin Cash et la direction vont nous servir. C'est le temps de la question de la semaine. Si vous avez envie d'une bonne pizza, pensez à Crabtree Pizzeria, qui est là depuis 54 ans. C'est une tradition dans l'anneau d'hier. Et pour découvrir nos 5 succursales, consultez le crabtreepizzeria.com. Quel joueur aura le plus d'impact avec sa nouvelle équipe? On vous donne un choix de réponse au départ. Il y a Bo Bichette qui a quitté les Jays pour les Mets de New York. Marc, on vous a parlé de Pete Alonso tantôt, qui est avec les Orioles. Alex Bregman qui a quitté les Red Sox pour aller avec les Cubs. Andrés Suarez qui, lui, s'amène avec les Red Sox. Dylan Cease avec les Jays. Puis si vous avez des suggestions, écoutez, sentez-vous libre de vous exprimer. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, donc facebook.com/compte-complet-balado et pourquoi pas aller sur notre site internet compte-complet.com. Il y a aussi beaucoup de matériel baseball que vous pouvez écouter ou regarder sur notre site.
Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball.
Alain, permets-moi de souligner notre partenaire principal, Plan de match, boutique de baseball. Une à Boucherville, l'autre à Jonquière. À Boucherville, cage de frappeur. Boutique en ligne aussi, boutiqueplanmatch.com, allez-y. Écoute, je sais que ça n'a pas l'air de ça, mais le printemps s'en vient. Et la saison, la belle saison. Les inscriptions de baseball, Alain, ont commencé, donc ça sent vraiment le baseball. Et donc, pourquoi pas aller vous équiper. On a de tout là à Boutique Plan de Match. Et on les remercie évidemment de leur grand support de ce merveilleux balado.
Merci beaucoup donc à tout le groupe. Marc, Nick Castellanos a été remercié par les Phillies de Philadelphie. En fait, on lui a carrément dit, tu ne te présentes pas au camp avant que ça commence. Et quelques jours plus tard, on l'a remercié. On a sans doute voulu l'échanger. Marc, un voltigeur de droite qui est en baisse de production, qui n'est pas très bon en défense. Si tu as des problèmes avec la direction, regarde, tu n'es pas bien placé. Puis là, ils ont décidé d'avaler le 20 millions de dollars qu'on lui devait. Moi, l'impression que Rob Thompson n'en voulait plus avec les Phillies.
Et pas juste Rob Thompson. J'ai l'impression que c'est une décision d'organisation, Alain. On a essayé de l'échanger. David Dombrowski l'a confirmé. Ben oui. Il dit, écoutez, on n'a pas, on n'a pas trouvé preneur. Donc, on le remercie. Et tu le dis, on avale le 20 millions. Donc, il a signé avec les Padres. Comment ça fonctionne? C'est que les Padres vont payer le salaire minimum. Et les Phillies, ben, vont continuer à payer le 20 millions moins le salaire minimum. C'est un peu comme ça que ça fonctionne.
C'est ça.
Écoute, il a mentionné lui-même, rappelle-toi lorsque on avait décidé de le mettre sur le banc, une coupe de match.
Oui.
Monsieur, je me souviens de quelques après-match, des commentaires que tu dis, ouf, OK, je comprends qu'il est pas content, là, mais tu voyais que la communication entre lui et son gérant, c'était difficile. Et là, ben, l'aventure de s'amener une bonne petite limonade alcoolisé, on va dire ça de même, sur le banc, alors que, tu sais, c'est une équipe de vétérans. On a intervenu rapidement. Il a pas bu sa bière sur le banc, on est intervenu, mais juste le fait d'y penser, geste quand même très égoïste. T'sais, on a parlé de Framber Valdez avec son geste égoïste, rappelle-toi, lorsqu'il a atteint son receveur. Ouais. La comparaison est boiteuse, mais ça reste que c'est le nom en arrière qui a passé devant le nom en avant d'une fois. Puis ça passe moins bien dans le baseball, dans une équipe. Alors, c'est pour ça que je dis que, Rob Thompson s'est dit, contenu que son rendement, tu l'as dit, Alain, sur le terrain, c'était plus ce que c'était. On a décidé de passer à autre chose. Je vous dis, le talent, le si, le ça, c'est très important, Alain, mais la synergie d'équipe, ça vient en premier. Puis dans ce cas-ci, on a voulu passer à autre chose. Alors, c'est ça, on a un propriétaire qui dit, parfait, on avale cet argent-là, puis on se débarrasse de Castellanos. Que trouver preneur rapidement?
Oui, à San Diego, Marc, son WAR l'année passée, là, -0.8. Tu sais ce que ça veut dire? On aurait rappelé quelqu'un du 3A, puis il aurait fait mieux. C'est vraiment ce que ça veut dire, le -0.8. Pas bon en défense, on va le dire. Là, il était moyen au mieux au cours de sa carrière. Puis je regardais son MPP à l'étranger, 6.34. Regarde, un voltigeur de droite qui a un rendement comme celui-là, tu as besoin d'être bon dans la chambre si tu veux justifier ta place au sein d'une équipe. Puis visiblement, il n'était plus. Donc, on ferme les livres dans le cas de Castellanos. Marc, chez les Tigers de Détroit, là, ben AJ Hinch a décidé de s'impliquer. il a ramené deux de ses anciens joueurs avec qui il a eu du succès. Justin Verlander retourne avec les Tigers, puis Framber Valdez, ben, finalement avec Détroit. C'est peut-être pas de mauvaise idée de le ramener. Et ça, j'imagine que AJ Hinch, dans ce cas-là, a mis son pied à terre, a fait partie du processus décisionnel de l'embauche de Framber Valdez. S'il y a quelqu'un qui le connaît, probablement que c'est le mieux placé. C'est avec lui, en fait, qui a eu le plus de succès dans le baseball majeur. C'est lui avec lequel il a eu le plus d'expérience. C'est peut-être le meilleur mariage possible pour l'ancien gaucher des Astros.
Tu sais, Alain, les connexions qu'on a dans le monde du baseball. La grande famille du baseball, tu as raison de mentionner que AJ Hinch, probablement que c'est lui qui a rencontré Valdez avec l'organisation, puis on s'est assis, puis on s'est dit, regarde, on va faire des choses ensemble, on va rappeler tout ce qu'on a fait. C'est important, là. Donc, autrement dit, quand tu vas dans une organisation, puis ça clique avec un membre d'organisation, que ce soit un gérant, que ce soit un joueur, que ce soit un entraîneur, connexion-là, elle reste par la suite. Et c'est tout à fait d'accord avec tes propos à ce niveau-là. Moi, j'ai pas aimé ce que Valdez a fait, mais si vous lisez un petit peu ce que Valdez était comme personne à Houston, un gars qui a remporté le trophée Roberto Clemente à un certain moment donné, là. Un gars qui était très impliqué dans la communauté, Il a fait des bonnes choses. Il a fait une mauvaise chose qui est une tâche à son dossier, mais c'est un gars qui peut certainement apprendre de ça. Et là, les Tigers lui donnent donc cette possibilité-là. Moi, je n'haïs pas ça, Alain. Puis tu sais, je vais me répéter un peu, mais d'avoir un Verlander assis à côté de Casey Mize pendant une saison, tu comprends, là, juste jaser, puis faire des, il y a des choses à apprendre. Moi, je pense qu'un gars-là, Casey Mize, un gars comme ça peut encore s'améliorer. Tu vas me dire qu'il a déjà 4-5 ans qu'il est là, mais j'aime des fois cette espèce de combinaison-là. Puis là, tu as un Tarek Skubal qui en est à sa dernière année avec les Tigers. Assurément, selon moi. Mais ça donne crime, ça donne... moi, j'ai une équipe de la centrale. Que tu sois dans le national ou dans l'américaine, tu t'améliores de cette façon-là. Mm-hmm. Tu te donnes une vraie chance de faire les séries. Puis je pense que là, les Tigers ont passé à cette étape-là.
Puis Marc, si jamais, à un moment donné, on voit la porte s'ouvrir en cours de saison, on a un réseau de filiales qui est bien garni. C'est pas dit là, qu'on fera pas une transaction ou deux là, pour se dire, regarde, là, cette année, on se contentera pas là, de se rendre juste en deuxième ronde des séries. Là. Ça va nous prendre plus de punch à l'attaque, puis on va prendre des moyens d'ajouter un bâton ou deux pendant la saison. Moi, j'ai l'impression que les Tigers, là, c'est un peu ce qu'on vise. Ouais, comme tu l'as dit, Skubal, là, on va profiter de sa dernière saison complète. Ouais. À moins qu'on fasse patate vraiment, là, il va passer la saison avec les Tigers.
Oui, moi je pense qu'on a. Oui, absolument. Si ça s'écroule, là, c'est autre chose, mais je pense pas que ça va s'écrouler de la manière dont cette équipe-là est bâtie. Mais on est prêt à accepter, regarde, il va s'en aller.
Ouais.
On va peut-être lui offrir l'offre qualificative pour aller chercher un choix repêchage, là, mais je pense pas qu'on va faire une transaction, surtout pas si on est dans le coup. On a une belle lutte là, avec les Royals de Kansas City.
Oui, je pense pas que Skubal accepte l'offre qualificative, juste dire ça comme ça. Là. Je pense qu'il va chercher plus qu'un contrat d'un an, même si ce contrat-là ou cette offre qualificative pourrait être très payante. Marc, tu as été frappeur. Je ne sais pas si tu as déjà eu des blessures aux mains en t'élançant ou quoi que ce soit, là, mais ça semble être une épidémie. Lindor, Carroll, Holiday, c'est trois joueurs quand même très importants pour leur équipe respective. Et les trois se sont blessés à une main. Les mains, écoute, je ne suis pas un spécialiste, là, puis tu pourras peut-être élaborer là-dessus. La seule chose que je sais, c'est que la circulation sanguine à une main fait en sorte que ces blessures-là sont très, très longues. C'est quand il n'y en a pas beaucoup de circulation. Tu sais, c'est des os puis des nerfs, mais il n'y a pas beaucoup de muscles là-dedans. Donc, c'est très, très long habituellement. Puis, effectivement, les blessures, les absences annoncées de ces trois joueurs-là sont pour plusieurs semaines. Tu peux quand même expliquer, Marc, un petit peu... oui, les mains sont importantes. Tu n'as pas besoin de me convaincre de ça, là, mais c'est quoi ces blessures-là?
Ouais, ben écoute, effectivement, c'est des blessures de baseball, on va dire ça de même. C'est étonnant, tu sais, un gars comme Lindor qui voulait participer aussi à la Classique mondiale, ça ne sera pas le cas. Puis, tu sais, tu as parlé de l'importance de ces joueurs-là. Carroll, qui devait lui aussi être de l'équipe américaine. Écoute, le Hammett Bone, tu fais mention. Écoute, je suis pas un expert non plus, puis je suis pas médecin, là, j'espère que je vais pas me faire... Mais bon, c'est un petit os, Alain, qui est tout près du poignet, là, et du côté du petit doigt, là, si vous prenez la main. Puis c'est ça. Donc, c'est un petit os, c'est fragile, de toute évidence, mais ça crée des douleurs et ça fait en sorte qu'on n'est pas capable de s'élancer confortablement. C'est aussi simple que ça. Là. Mm-hmm. Puis on sait à quel point, lorsqu'on est au bâton, Alain, on sollicite tout ce qui est mains, poignets, vous comprendrez là, que c'est extrêmement sollicité. Ce sont des blessures malheureusement assez courantes quand même. Tu sais, c'est pas la première fois, c'est juste rare qu'on envoie trois de suite et trois joueurs d'impact de cette de ce niveau-là là, qui se blesse à cet endroit-là. Mais genre de blessure, bon, c'est soit qu'on est atteint, évidemment, par... une balle, ou soit évidemment que parfois ça peut être aussi là, par la force des choses, si vous voulez, là, à force de s'élancer. Lindor est un frappeur ambidex, alors lui c'est d'autant plus important là, de pouvoir, tandis que en cas de Carroll et Holiday, c'est deux frappeurs gauchers. Mais écoute, Regarde, ça fait partie des blessures. Tu sais, je sais que le fameux tennis elbow là, qu'on appelle, qui est souvent causé là, par évidemment des gestes répétitifs. Mais ça, c'est une blessure baseball, Alain, qui fait parler d'elle en raison là, en ce moment de ces trois joueurs-là.
Ouais, puis il y a une blessure au pied, Marc, qui est courante aussi. Là, on pourra peut-être en parler à un moment donné. En anglais, où le mot latin, c'est plantar fasciitis. C'est sous le pied, c'est très douloureux, Marc. Et les joueurs de baseball, il y en a plusieurs là, qui ont raté du temps de jeu l'année passée en raison de ça. Je sais qu'au tennis aussi, c'est une blessure là qui commence à être courante. Donc, effectivement, on sollicite le corps, tu comprends, à un certain extrême. Ça se peut qu'à un moment donné, ils répondent de façon négative. Juste pour revenir chez les Tigers, Marc, comme je le mentionnais, Verlander, mais écoute, dans le pire des cas, ce serait une tournée d'adieu là, avec les Tigers, mais je pense qu'effectivement qu'on vise pas mal plus haut que ça cette année avec la dernière année de Tarik Skubal. Maintenant, la carte de la semaine, on a une petite surprise pour vous. Elle est présentée par cartes-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 60 000 articles en vente sur eBay. Une cote parfaite de satisfaction à 100%. Un des personnages les plus colorés de son époque, même à l'époque où il jouait, mais particulièrement comme gérant, dans les années 60, 70 et 80, Billy Martin, embauché 5 fois par les Yankees de New York. Mais on oublie, Marc, qu'il a connu beaucoup de succès avec chacune des équipes pour lesquelles il a été le gérant. On retient notre attention sur la carte numéro 33 d'OPG de 1972. Cette année-là, c'est reconnu pour les couleurs de cette carte. Puis par la suite, pour l'ensemble des cartes des années 70, OPG qui est relié à Topps également. Marc, du côté de Billy Martin, cette carte, si tu portes attention, regarde, ça ne vient pas de moi, je n'ai pas, pas ce regard-là sur la carte de Billy Martin, mais plusieurs ont noté sa main qui tient le bâton. Et surtout le doigt qui en ressort. Je n'irai pas plus loin, mais certains croient que lors de la prise de photo, Billy Martin aurait fait exprès. Est-ce que c'est le cas? Malheureusement, Billy Martin n'est pas là pour le confirmer ou non. Connaissant le personnage, ça n'aurait pas été surprenant. Marc, il y a plusieurs livres qui ont été écrits à propos de Billy Martin. Il a été un très bon gérant, Marc. Pour relever une équipe, il y a très peu de dirigeants de meneur d'hommes qui ont réussi ce qu'il a fait. Son premier boulot avec les Twins du Minnesota, on s'est rendu en série la première année. Il n'est pas revenu l'année suivante. Pourquoi? Parce qu'il s'est battu avec son meilleur lanceur pendant la saison précédente. C'était pas sa première ni sa dernière bataille avec un de ses joueurs. En 72, avec les Tigers, il amène son équipe en série. Par la suite, il s'est amené avec les Yankees de New York en 76, 77, et amène son équipe en série. Ben oui, il s'est pris avec un de ses joueurs. C'est pas battu, une chance pour lui, parce que c'était Reggie Jackson qui était son souffre-douleur à ce moment-là. Il est allé avec les Aces d'Oakland. Marc, ils avaient perdu quelque chose comme 110 matchs. 2 années plus tard, s'en vont en série. Billy Martin, il y en a plusieurs qui qualifiaient de génie au baseball. Mais je pense que c'est son fils. J'ai lu quelques-unes de ses biographies. Un de ses fils qui disait, mon père, c'était un génie, mais il était incapable de vivre sans le chaos. Et c'est ça qui a fait en sorte. Il était pas capable, dans son fort intérieur, d'accepter une certaine forme de stabilité. Tu comprends? Et lui, écoute, son équipe, c'était les Yankees. Quand tu dis le signe d'une équipe tatouée, là, son rêve, c'était de diriger les Yankees. Il n'était pas capable, tu sais, de se défaire des Yankees. George Steinbrenner en a profité, Marc. C'est un peu dommage, là. Tu sais, ça a été bien romancé, toute cette relation de Billy Martin avec les Yankees. Il y avait quelque chose d'un peu maladif là-dedans. Steinbrenner en a peut-être profité maladivement, mais, tu sais, au-delà de toutes les carences cognitives, personnelles, de Billy Martin. Je pense qu'il faut reconnaître là, que sur le plan baseball, ce gars-là a accompli énormément. Et cette partie-là, il ne faudrait pas l'oublier malgré les côtés négatifs de Billy Martin.
Ouais, bien rapidement, moi, quand tu as parlé de chaos là, ou de chaos, là, c'est vraiment. C'est l'image que moi j'ai de Billy Martin. Comme tu dis, ça n'enlève rien, évidemment, à tout ce qu'il a accompli.
Ben oui.
Mais c'est pas le genre de gérant qu'on verrait dans le baseball moderne, mettons.
Ouais, j'ose pas voir quelqu'un arriver avec le cartable de chiffres et dire à Billy Martin, aujourd'hui, lui, il a seulement 100 lancés, puis lui, tu l'étais en 8e. Je peux te dire que ça aurait été une bagarre de plus ajoutée à un répertoire qui est déjà très garni. On s'adresse principalement aux jeunes lorsqu'on parle des livres de notre ami Bob McDuff. Allez sur le site baseballbob.ca, des livres qui sont pondus par cet artiste avec thème principal le baseball destiné aux enfants. Et c'est une merveilleuse façon de combiner la lecture, faire aller votre imagination, et évidemment le baseball. Il y aura d'ailleurs quelques œuvres qui vont s'ajouter à la collection de Baseball Bob au cours de la prochaine année. Marc, on a arrêté notre dévolu sur Alex Vesia, releveur gaucher des Dodgers de Los Angeles. Ça avait été un choix, Marc, des Marlins. Tiens-toi bien et ça va te faire sourire. The Cal State East Bay, c'est une institution de deuxième division. Ce sont les Marlins qui l'avaient repêché. Comme quoi qu'il y a des petits bijoux qui peuvent se trouver à peu près n'importe où. Repêché en 2018 et 2 ans plus tard, il était déjà dans le baseball majeur avec les Marlins. Et on l'a par la suite échangé aux Dodgers de Los Angeles pour Dylan Floro. Une autre transaction qui va à l'avantage des Dodgers. Écoute, les Dodgers, Coach Floro a rendu de bons services aux Dodgers. Puis, des bonnes organisations, c'est ce qu'on va faire. On prend des actifs, on en profite jusqu'au bout, puis on les échange contre d'autres actifs qui vont nous aider. Vesia a rendu de très, très bons services aux Dodgers de Los Angeles. Efficace, Marc, autant des droitiers, des gauchers. Il a remporté 2 séries mondiales, celle de 2024 et celle de 2025. Malheureusement, il n'a plus participé à celle de 2025. Écoute, il vivait des moments qui n'étaient pas faciles. Accouchement difficile qui a fait en sorte qu'ils ont perdu leur enfant. Donc, on peut comprendre son absence. Il vivait des moments qui n'étaient vraiment pas faciles. Donc, retour au baseball cette année. Évidemment, lorsqu'on vit des choses semblables, Marc, de remettre le tout dans leur propre perspective, se remettre dans ce qui était notre passion, c'est vraiment pas facile, mais c'est peut-être la meilleure façon de revenir, si tu veux, à une vie normale.
Oui, absolument. Il a été très émotif là, lorsqu'il s'est présenté au camp des Dodgers là, pour un peu, effectivement, bon, tourner la page là-dessus. Rappelle-toi l'année dernière en série mondiale, même les joueurs des Blue Jays qui avaient porté son numéro sur leur casquette. D'ailleurs, il avait beaucoup apprécié le geste, évidemment, de l'organisation des Blue Jays à ce niveau, mais c'est ça. Il voulait arriver au camp d'entraînement. Il a passé le message. Il dit que lui et son épouse sont en consultation, mais que là, ben, on prend le travail. Donc, c'est pas facile pour personne, évidemment, de vivre ce qu'ils ont vécu. Mais effectivement, de retrouver un peu, entre guillemets, la gang, se retrouver au camp d'entraînement, changer les idées, essayer de retirer des frappeurs, c'est peut-être effectivement la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Et évidemment, on lui souhaite une très, très bonne saison.
Absolument. Donc, retrouver un semblant de normalité, Marc, on n'oubliera jamais, mais tu sais, la route continue quand même. Donc, l'appui de ses coéquipiers a été et va être très important au cours de l'année qui va suivre. Les camps d'entraînement ont commencé. On parlait de Zach Gallen, Marc. On en a beaucoup parlé dans ce qui nous concerne. On croyait que c'était un actif qui aurait pu aider une équipe, puis finalement, il va retourner avec les Diamondbacks. Puis on avait, tu te rappelles, envisagé la possibilité que, compte tenu où on en était, qu'il accepte un contrat d'1 an pour se refaire. C'est exactement ce qui va arriver avec les Diamondbacks.
Oui, et tout ça pour pas grand-chose, dans le sens que il avait refusé l'offre qualificative de 22 millions. Ouais. Et il a signé pour 22 millions. Alors...
Tout ce stress pour rien.
Et c'est ça. Donc, c'est un peu, un peu spécial, ouais. mais ça, Alain, c'est le travail d'un agent de dire, ben garde, on s'en va sur le marché. Je pense que plusieurs anticipaient que Garland allait chercher un contrat de 2 ou 3 ans, aller chercher peut-être un petit peu plus d'argent, tout ça. Ça n'a pas été le cas. T'sais, on en a parlé souvent, Alain, que c'est un gars qui est très bon, mais qui devient de plus en plus vulnérable. On avait comparé ses statistiques des dernières années. Et là, on a décidé évidemment de retourner avec les Diamondbacks, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il a connu du succès là-bas. Les Diamondbacks sont quand même dans un budget un peu plus restreint parfois. Donc, je pense que les autres le voulaient, auraient aimé le garder pour ce prix-là. D'ailleurs, on lui avait fait l'offre qualificative, je pense, en ce sens, idéalement. Alors, ça, c'est une histoire qui se termine bien pour l'organisation et pour Zach Gallen, finalement.
Oui. C'est pas dit qu'il va terminer la saison, par contre, avec les Diamondbacks, évidemment, sur un contrat d'un an. Il y a une autre équipe qui a beaucoup bougé au cours des derniers jours. Ce sont les Padres de San Diego. Un, Nick Castellano s'en va avec les Padres. Je n'ai pas très confiance, moi, de ce qui va arriver là-bas. J'ai parlé tantôt de son MPP à l'étranger. Tu ne t'en vas pas dans un stade de frappeur là, à San Diego. Et on a embauché deux lanceurs. Puis ça, c'est intéressant. Griffin Canning, rappelle-toi, il avait eu un très bon début de saison avec les Mets l'année passée. On a manqué ses services. Et German Marquez, ça, c'est un coup de dé. Lui, écoute, va vraiment changer d'environnement du Colorado jusqu'à San Diego. Les Padres, Marc... Écoute, à l'attaque, on vieillit. Il va falloir au monticule en donner un petit peu plus, j'ai l'impression, si on veut continuer d'être compétitif.
Ben, vous savez, San Diego, là, on n'est plus dans les années où là, on dépense tout l'argent qu'on avait. Là.
Ouais.
Écoute, c'est trois joueurs qui n'ont pas coûté cher. On a embauché ces trois joueurs-là dans l'espace d'à peu près 48 heures, là, ou à peu près. Mm-hmm. On n'a pas payé cher. Mais là, Marquez, lequel va se présenter? Là, parce qu'il avait, il a quand même été bon là, à un certain moment donné avec les Rockies.
Ben oui.
Ça a été plus difficile. Et évidemment, bon, Castellano, ça n'a pas coûté cher. Ben, c'est le minimum.
Ben oui.
Mais bon, tu sais, on a encore Machado, on a encore Tatis, on a encore Jackson Merrill. Il y a quand même quelque chose de ce côté-là, du côté des Padres de San Diego. Mais qu'est-ce qu'on va avoir de Cronenworth? Qu'est-ce qu'on va avoir de Bogarts? Qu'est-ce qu'on va avoir? Là, Miguel Andujar est là. Puis Nick Castellano, c'est là.
C'est deux profils pareils.
Bon, alors qui va jouer où, puis quand, puis comment, on va laisser la direction là, trouver des solutions. Puis évidemment, il y a eu une mauvaise nouvelle lorsque Yu Darvish, officiellement, là, il sera probablement sur la liste des blessés tout au long de la saison. Fait qu'écoute, c'est pas facile de jouer dans la même division que les Dodgers. Pas facile non plus de voir les Giants qui se sont quand même améliorés.
Ouais.
Et les Diamondbacks, mais tu sais, il y aura le retour de Joe Musgrove, Michael King qui est de retour. Est-ce que Nick Pivetta peut avoir une aussi bonne saison? Il y a quand même des choses intéressantes là, du côté des Padres de San Diego, mais c'est, tu l'as dit, coup de dé. T'sais, est-ce qu'Andujar ou Castellanos, un des deux, va connaître une très bonne saison? Ben, c'est sûr que ça aiderait la cause de l'attaque des Padres.
Absolument. Marc, la zone de prise électronique, ben là, c'est plus à savoir si ça va commencer cette année. J'ai l'impression qu'on fait un gros plat avec ça. Moi, j'ai assisté à quelques matchs du baseball mineur, puis ben franchement, il faut que tu portes attention là, pour que tu vois une différence. Sur la longueur des matchs, là, ça va être vraiment négligeable. Je pense qu'il y en a plusieurs qui le souhaitaient. D'autres vont s'ennuyer de l'aspect humain. Moi, je pense qu'on a une technologie, pourquoi pas s'en servir? Je pense qu'on est rendu là. Et ça ne change pas la façon dont le match se joue. Outre peut-être, à long terme, peut-être le fait que certains receveurs dont la qualité première est de cadrer bien les tirs, on va peut-être voir leur valeur diminuer. C'est le seul côté négatif que je peux voir avec
encore
ça.
Là, Alain, tu sais, chaque équipe va avoir deux, donc.
Oui.
Deux possibilités. Et si parfois le receveur fait un très bon travail de cadrer les tirs, on n'ira peut-être pas là, parce qu'on ne veut pas les perdre, là, ces deux possibilités-là. La seule chose, Alain, c'est que je veux dire là-dessus, le fameux carré qu'on voit à la télévision, ça ne sera pas ça, la zone de prise. OK? Parce que ça, c'est pas très précis. Là, le système, là, j'ai lu là-dessus, et évidemment, un membre, c'est 17 pouces. Je m'excuse d'utiliser les pouces, là, mais bon, c'est 17 pouces devant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on a une ligne de centre et on va partir de là. Et là, imaginez, là, c'est qu'on va prendre 53,5% de la grandeur du joueur. Tu sais, c'est parce que la zone de prise va être appropriée au joueur. Mm-hmm. Donc, Altuve n'aura pas la même zone de prise que Aaron Judge, vous comprendrez. Alors, c'est 53,5% des joueurs. On va partir pour le haut et 27% vers le bas. Alors, donc, autrement dit, on a fait des calculs pour que automatiquement la zone de prise soit associée au physique du joueur. Alors, 27%, ça veut dire que c'est là qu'on arrive aux genoux, là, en haut des genoux, où la fameuse de prise devrait être, là, 53%, ben, à la hauteur des, un peu à, en bas des lettres ou près de la ceinture, si on fait une image comme ça. Et vraiment, là, en séparant le milieu, on disait tantôt à 17 pouces, ben c'est vraiment à 8,5 d'un côté puis 8,5 de l'autre. Alors, mais, comme on a toujours dit, Alain, si la balle, juste une petite partie de la balle qui touche le coin, c'est une prise. C'est juste que le fameux, ce qu'on appelle le noir autour, ben peut-être que là, ça va peut-être toucher le coin du noir, mais si ça ne fait pas partie du 8,5, ça va être une balle. Autrement dit, il va quand même y avoir un petit peu un changement au départ par rapport peut-être ce qu'on avait vu dans les dernières années. Là, t'sais, bon.
Ouais.
Mais c'est quand même assez minime comme chose. Donc, ouais. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que la technologie a beaucoup évolué depuis qu'on a commencé des tests au niveau des ligues mineures. Et là, qu'on est vraiment confiant de ce système-là. Et il faut demander, Alain, à l'intérieur de 2 secondes, si on veut une reprise ou non. Et comme on l'a mentionné, ce sont que lanceurs, frappeurs et receveurs qui peuvent évidemment demander la reprise. Ça peut pas venir du banc, par exemple.
Ouais,
de toute façon, ça prend 2 secondes. Fait que le banc n'aura pas le temps de réagir à ça. Alors, comme tu l'as dit, très rapide, et comme tu as vu, Alain, tu l'as vu aussi, c'est immédiatement sur le tableau, comme au tennis, si vous êtes allé au tennis, ça va aller directement au tableau et ça va faire partie, bon. Mais c'est sûr que si il y a plusieurs demandes par match et qu'à chaque fois, l'équipe garde sa vie, si vous voulez, là, si on a 2 vies, ben là, ça va peut-être exposer les officiels. Un petit peu plus.
Ouais.
Et c'est là que ça va être un petit peu plus délicat pour certains officiels, parce que là, si tu demandes 10 reprises, puis à chaque fois, tu as raison, bon. Là, certains vont dire, enfin, on va pouvoir avoir un système qui va évaluer les officiels, parce que certains se plaignent souvent de ça. Mais c'est ça. Donc, autrement dit, c'est quand même une belle nouveauté qu'on va avoir cette année, puis il va falloir que tout le monde s'ajuste à ça.
Certains prétendent que ça va favoriser les frappeurs, parce que si on tient compte de ce qu'on sait, ce qu'on a comme technologie, il y a plus de prises par les arbitres qui sont à l'extérieur de la zone des prises que le contraire. Donc, j'ai hâte de voir si ça va s'avérer. L'autre question que j'ai, Marc, à propos de la hauteur, est-ce qu'on prend cette hauteur-là lorsque le frappeur s'installe ou lorsqu'il est debout? Et je fais référence à un joueur que tu as vu jouer, Ricky Henderson, là, sa zone des prises quand il s'installait, là, Pete Rose, la même chose, très penché sur le marbre. Sa zone des prises n'est pas la même selon qu'il est debout ou penché. Là.
Écoute, très bonne question, moi je pense que si tu décides de te pencher, Alain, ça va faire, tu sais, je veux dire, ça fait partie de ton style, mais ça reste que ta prise va être un petit peu plus haute, là, tu sais.
Ça serait supposé.
Parce que là, rappelle-toi, là, tu sais, si moi j'arrive au bâton, là, puis je m'accroupis comme ça, ben ma zone de prise reste la même. Ça reste la même.
Ouais.
Alors, ça va être intéressant, mais pour être juste pour tout le monde, il faut prendre les bonnes données de chacun des joueurs. Alors, non, écoute, j'ai hâte de voir. Je pense que dans des moments importants, s'il y a un tir, tu sais, 3 balles, 2 prises, par exemple. Puis en passant, là, il peut y avoir parfois des situations où on va demander la reprise, la reprise de la balle et de la prise, et qu'on peut avoir en même temps, Alain, une reprise sur un jeu. Et je m'explique, 3 balles, 2 prises. Le coureur est en course. Alors, si l'arbitre appelle une 3e prise, moi, je lance au 2e, puis je retire, donc double jeu. OK? Mais si on va taper sur la casse, on demande, mais c'est une 4e balle, bien là, tu comprends que là, le joueur va avancer. Mais à l'inverse, si on décide que c'est une 3e prise, mais le joueur est sauf au 2e, et on va à la reprise.
Ouais.
Mais là, le receveur lui dit, ouais, mais attends un petit peu, moi, je pensais que c'était une 3e prise, c'est une 4e balle. Ben, une 4e balle, alors j'ai pas.
Ouais, ben oui.
Est-ce qu'on retourne le go au premier but? Non, mais tu comprends, fait qu'il va y avoir quelques endroits où ça va être quand même assez comique de voir que la décision de la prise et la balle va peut-être déterminer la reprise, qu'est-ce qui va se passer pour la suite des choses. En tout cas, autrement dit, là, il va y avoir des choses qu'on n'aura jamais vues.
va falloir que ça se précise, Marc, avant que la saison commence. Ça, c'est clair. Il ne faut pas laisser ça dans les mains des arbitres. Il faut que ce soit clair et net. En fait, le positionnement du coureur au deuxième, tu parlais de choses un peu saugrenues qui pourraient survenir. Regarde, tu te rappelles Albert Abreu qui lance la neuvième, commence la dixième avec un gars au deuxième, retire son premier frappeur, on l'enlève du match, parfait, il a fait son travail, puis le lanceur suivant donne un coup sûr. La défaite va à qui? Va à Albert Abreu qui a retiré les quatre frappeurs auxquels il a fait face. Il y a peut-être des changements à faire de ce côté-là.
En tout cas, Alain, juste préciser là, que dans nos prochains balados, on va avoir une nouvelle chronique. Tu sais, on parle d'électronique, on parle de technologie. Ouais. On va avoir une nouvelle chronique qui va être vraiment sport et technologie. On sait que l'intelligence artificielle fait maintenant partie pratiquement de nos vies. Le baseball est inclus, le sport est inclus. Donc, Jean-Michel Arsenault va venir avec nous faire une chronique là, vraiment sport, baseball et technologie. Mm-hmm. On va s'amuser un petit peu avec ça. Puis ça va être bien le fun parce que inévitablement, ça fait partie maintenant là, de l'intelligence artificielle fait beaucoup partie du monde du sport aussi. Comment on l'utilise adéquatement? Est-ce qu'on surutilise à d'autres endroits? Plein d'affaires, plein de discussions qu'on aura avec Jean-Michel au cours de nos balados à compter du mois de mars.
Oui, et je peux juste te dire, Marc, qu'il n'y a pas une seule organisation sportive professionnelle, peu importe le niveau, là, qui n'a pas recours à l'intelligence artificielle au deuxième étage, et ça inclut, tu comprendras, évidemment, le baseball. On va terminer avec le baseball international. On va commencer avec la Classique mondiale, ça s'en vient dans pas grand temps. Malheureusement, il y a plusieurs joueurs qui vont être absents, on a mentionné, en raison de blessures.
Ou d'assurance.
Ou d'assurance, ça aussi, c'est pas réglé, cette histoire-là. Donc, on va avoir du bon baseball, on se le souhaite. Les Américains sont organisés pour gagner ce tournoi-là. Je pense qu'on est un peu tanné de voir les autres équipes célébrer. C'est presque l'équipe A qu'on aura sur le terrain. Les Dominicains sont très, très fiers de leur baseball aussi. Les Japonais, ils ont eu beaucoup de succès. Puis, s'en viennent les Olympiques par la suite. Là, je pense que là, on s'en vient dans ce que vraiment Rob Manfred voulait. C'est internationaliser le baseball. Le dernier gros morceau, ça va rester les Jeux olympiques de 2028. Il ne s'en est pas caché. Il veut avoir les meilleurs joueurs. Ce qu'il faut, Marc, je pense que les joueurs le veulent. Je pense que ce ne sera pas vraiment un objet de négociation avec les joueurs. Là, je pense qu'on le souhaite tous. Et là, ce qui manque, Marc, c'est vraiment, moi, à mon avis, là, ça va être vraiment l'assentiment des propriétaires. Tu sais, on investit de gros montants d'argent sur nos joueurs étoiles, ça ne nous tente pas de les perdre pendant ce qu'eux vont considérer comme étant un tournoi d'exhibition. C'est pas mal plus que ça, là, on s'entend. Il faut penser plus loin que le bout de notre nez. On s'est déjà prononcé là-dessus. Mais à partir du moment où les propriétaires vont embarquer, Marc, je pense que ça va être un gros, gros succès. C'est ce morceau-là, je pense, que Rob Manfred devra aller chercher.
Ben, écoute, Alain, ils ont pas mal de choses à régler à d'ici là, hein, parce que la convention collective. Fait que, faut que les propriétaires, on voit que les propriétaires sont divisés. Fait que ça, c'est pas bon. Il va falloir que les propriétaires, on verra ce qui va se passer. Mais écoute, je pense que les jeux, Alain, comme propriétaire, tu veux faire ton argent, puis tu veux que ton équipe, tu veux que ton équipe gagne. Mais quand lorsque le baseball rayonne à travers la planète, il me semble que chaque organisation va gagner de ça. Tu sais, je veux dire, c'est
ben oui.
C'est un peu être égoïste de dire non, moi je veux pas. Je comprends que tu les payes les joueurs, puis ils peuvent se blesser, puis je regarde le joueur des Kings là qui a été blessé là durant les Olympiques, tu le perds la saison. C'est plat. Mais il y a des risques là-dedans, c'est clair. Mais ça reste que tu veux faire rayonner ça. Et là, écoute, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui m'ont posé la question. Mais là, imagine-toi, et en plus, si tu décides de faire la pause olympique aux 4 ans. Donc, inévitablement, il y a un trou dans le calendrier, là. Est-ce qu'on pourrait pas refaire ce qu'on avait fait en 81, Alain, et avoir deux saisons? Moi, c'est pas la première fois qu'on en parle, là. Tu sais, des fois, on jase comment le baseball pourrait s'améliorer.
Ouais.
Je sais que 162 matchs, les gens disent « Hey, c'est ça la beauté du baseball, faut que tu en gagnes pendant 162. » Puis d'autres disent « Ben oui, mais si tu coupes la saison en deux, tu peux avoir une mauvaise première moitié de saison, mais te rattraper par le but. » Donc, ça donne espoir un peu aux joueurs et aux partisans. Est-ce que ce serait l'occasion peut-être de présenter une affaire de même? On jase, là.
Ouais, ben écoute, Marc, Parlement des saisons, c'est juste ça que tu as eu pendant que tu étais professionnel, des saisons qui étaient divisées en deux. Tu l'as vécu comment, cette expérience-là?
Ben, c'est sûr que nous autres, moi je me souviens, ma première année, c'était ça. On n'avait pas eu une très bonne première moitié de saison et on avait des attentes élevées. Moi, je me souviens du speech de notre gérant qui a dit « Bon, mais là, les gars, on efface et on recommence. » Puis là, ben il y avait une certaine motivation. On n'a pas réussi à gagner la deuxième moitié de saison, mais je trouve que ça donnait vie. Elle se disait « Bon, ben OK, là, apprenons nos erreurs, puis poursuivons. » Puis ça n'a pas marché, mais je trouvais que... Moi j'haïs pas ça. Je sais que le baseball, on sait, c'est encore une fois là, ça fait partie de son charme peut-être que c'est une saison qui est si longue, puis il faut que tu traverses ta saison. T'as des hauts puis des bas, mais c'est sur 162 matchs. Alors que là, ça serait sur 81 par exemple. Tu sais. Alors, je sais pas. C'est des idées qu'on lance, mais toujours est-il que le baseball gagnerait beaucoup selon moi. Puis là, je regarde l'équipe canadienne cette année. Évidemment, bon. Moi, je pense que le baseball au Canada s'améliore grandement. Il y a de plus en plus de joueurs. C'est peut-être pas des joueurs, encore une fois, c'est peut-être pas des Larry Walker ou des Matt Stairs encore. Mm-hmm. Et allez, plus on va en avoir des joueurs qui vont jouer dans les collèges américains, qui vont jouer au niveau international, bien, plus on risque d'en voir, évidemment, éventuellement, que l'équipe s'améliore. Bon, ce qui est le fun cette année, c'est que tu regardes à l'avant-champ, tu peux retrouver Otto Lopez, Édouard Julien et Abraham Toro. Ça reste quand même trois gars du Québec qui arrivent là. Puis là, tu as les frères Naylor qui arrivent. Fait qu'il y a des choses quand même intéressantes dans cette équipe-là. Puis j'ai hâte de voir Owen Casey. Puis on sait que Denzel Clark, à quel point il a été impressionnant. Donc, c'est pas une mauvaise équipe. C'est sûr qu'au niveau des bras, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Il y a des très bons bras. Puis Philippe Aumont aussi. En passant à Philippe Aumont, là, bon, parlait de son retour avec les Blue Jays de Toronto, là. C'est une question simplement là, d'administration. Il fallait qu'il signe une espèce avec l'équipe avec laquelle il s'est retiré. Il fallait qu'il signe une espèce de contrat simplement là, pour questions d'assurance et tout ça. Mais évidemment, ben là, ça va sur le fil de presse. Puis là, tu vois ça apparaître. Alors que Philippe, elle irait pas ça, mais évidemment, c'est pas le cas. Il ne sera pas de retour dans l'organisation bon. Des. Bon, mais tu sais, de voir un gars comme Antoine Jean qui va être là, je trouve ça le fun. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que le Canada peut faire, mais ce que je veux dire, c'est qu'on s'en va dans la bonne direction en termes de talent et en termes de jeunes joueurs.
Oui, ben, évidemment, on va porter un œil attentif sur ce qui se passe avec cette classique mondiale, de même que dans les camps d'entraînement. Il y a encore des joueurs autonomes. C'est pas dit que lors de notre prochain balado, il n'y aura pas quelques joueurs qui se seront ajoutés aux différentes formations. Ça complète ce balado. J'espère que cela vous a plu. On va se tenir au courant, évidemment, de ce qui se passe dans le monde du baseball d'ici là. Merci à Martin Villeneuve de nous permettre de décorer ce balado visuellement. Marc, évidemment, on continue, nous, de s'informer sur ce qui se passe dans le monde du baseball. Ça s'en vient à grands pas. Dans un peu plus d'un mois, ce sera le début de la saison et je vous souligne qu'on aura, évidemment, comme à l'habitude, notre émission d'avant-saison là, pour mettre la table sur la saison 2026. Voilà, on se souhaite du bon baseball là, au camp d'entraînement d'ici notre prochain balado. À la prochaine.
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion.